Donc on est dans Philippiens, on va continuer dans notre série sur Philippiens chapitre 1, et là nous allons voir ce matin versets 9 à 11. Et nous voyons ici dans Philippiens, je continue à dire Proverbe, mais c'est bien Philippiens 1, 9 à 11 que nous allons lire, que Paul prie pour les Philippiens. Et ce que nous allons apprendre ce matin, c'est le sujet de sa prière et ce que nous pouvons en apprendre. Il va prier pour que leur amour augmente. Donc, nous allons voir ça ce matin. Donc, je vous invite à tourner dans Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Et on va se lever par honneur à la lecture de la parole de Dieu. Juste un petit moyen pour moi de souligner que tout ce que moi je dis doit être conforme à la Bible. C'est la Bible, la vérité. C'est la Bible, la parole de Dieu. Fait la lecture ce matin de Philippiens chapitre 1 versets 9 à 11. Et on va le lire ensemble. Ceux qui veulent le lire avec moi, joignez votre voix à la mienne. Proverbe Philippiens 1 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour qui tu es, tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci que tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Seigneur Dieu, merci pour cet épître de Philippiens et ses versets 9 à 11 qu'on va regarder ce matin. Je te prie de m'aider à bien communiquer droitement le sens de ta parole et touche le cœur selon le besoin, Seigneur Dieu. Que ceux qui ne te connaissent pas encore réellement comme Sauveur et Seigneur, qu'ils puissent venir vraiment à toi, même ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, nourris ceux qui t'appartiennent, Seigneur Dieu, fortifie-les dans leur foi, on te prie. Seigneur, que ça ne soit pas simplement des professions de foi, mais vraiment une marche, Seigneur Dieu, par la foi avec toi, Seigneur, on te prie au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous voyons ici la prière de Paul pour que leur amour augmente. Donc, nous voyons par ce que Paul demande à Dieu, qu'est-ce qui compte vraiment. Et parfois, nous, dans nos prières les uns pour les autres, peut-être on prie plus pour la santé, peut-être plus pour un travail, peut-être plus pour les besoins physiques, mais à quel point est-ce que vraiment on s'attarde à prier pour ceux qui comptent vraiment? Et Paul ici, il prie pour que leur amour augmente. Et on voit l'importance de l'amour par le fait que c'est le sujet principal que Paul traite. Et on va discuter quelques instants justement de pourquoi est-ce que c'est important l'amour. Ben, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est le plus grand commandement. Et le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu nous aime tous également. Il nous a tous créés. Et Dieu nous a mis dans un amour propre qui est normal. Quand on a soif, on veut boire. Quand on a faim, on veut manger. Quand on a mal, on va essayer de prendre soin de notre blessure. Ça, c'est comme ça qu'on est. Dieu nous a créés comme ça. Eh bien, qu'on se force à aimer notre prochain autant que naturellement on s'aime déjà. Le monde retourne ça à l'envers, puis dit, hey, avant de pouvoir aimer ton prochain, il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même. Alors là, il le retourne à l'envers pour qu'on soit encore plus égocentrique. Et ça, c'est le monde. Le monde qui appelle le mal bien et le bien mal, comme condamne Dieu dans Ésaïe 5. Et donc, Dieu, il dit non, aime ton prochain comme toi-même. Tu t'aimes déjà, ben aime ton prochain comme ça. Prends un reculant de la manière trop facile que tu t'aimes trop, que tu es trop centré sur toi, et remarque tout le monde autour et aime-les autant, parce que Dieu, lui, il aime autant. Toutes ces créatures, il n'y en a pas un qu'il préfère au-dessus d'un autre. L'amour est tellement important. L'amour, comme on a vu la semaine dernière, dans Jean 13, c'est ce par quoi le monde va connaître les disciples de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. C'est comme cela que le monde saura que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? Si on a toutes sortes de zèles, si on a toutes sortes de connaissances, si notre foi est grande, c'est vide, sans amour. Alors est-ce qu'on est surpris que Paul, il dit, je prie que votre amour augmente. Ce n'est pas faux qu'il aurait voulu aussi prier à votre place que votre foi augmente, que votre zèle augmente. Mais là, il va droit au but. Je prie. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Et dernièrement, je méditais sur le fait que Dieu est amour et tout ce qu'il fait, c'est avec passion. Et là, je me devance un peu, mais à un moment donné, je vais prêcher pleinement là-dessus. Ésaïe 53, 10, quand ça dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Et ensuite, il parle de sa victoire dans la résurrection, tout ça. Bien sûr, Dieu ne l'a pas fait souffrir et en finir là. Non. Mais j'ai médité là-dessus. Dieu aime le bien et haït le mal, comme il dit dans Hébreu. Hein? Et ce que Dieu a fait à Jésus-Christ, c'est avec toute la passion qu'il a, toute la haine du mal. Parce qu'il aime le bien, il haït le mal. J'avais, en arrière de chez nous, où ce qu'on habitait, en Amérique du Nord, une plante qui était une des plantes les plus invasives dans le monde entier. N'importe quel petit bout de racine pouvait reprendre la plante. Même après 15 ans dormant, ça va revenir. Pour enlever cette plante de là où il est, il faut tout réussir à prendre toutes les racines, tout. Parce que quand ça revient. Et la manière que ça pousse, puis ensuite ça envoie des racines plus loin et ça pousse, et donc ça continue à juste envahir partout. Et je commençais à avoir une haine de cette plante-là, parce que le seul moyen de vraiment s'en débarrasser, c'est soit de couper partout, comme si c'était dans le milieu d'une pelouse, il n'y a pas de problème, ça ne poussera pas parce qu'on coupe toutes les deux semaines. Et bon, ici en Guyane, la plupart du temps, c'est peut-être une fois par mois, mais sinon on a le plus les couper une fois par deux semaines. Et si on coupe régulièrement la pelouse, bon, elle ne peut pas continuer à vivre constamment comme ça. Mais si on arrêtait à un moment donné de pousser, de couper, bah, après 5 ans, ça risque de revenir parce qu'il reste des racines. Là, c'était avec une passion qu'à un moment donné, là, mais c'était cause perdue, parce qu'à moins qu'on s'en occupe tout le temps. Mais Dieu, il voit le problème du péché avec une haine, que c'est quelque chose d'envahissant. Il reste juste une racine, ça va continuer à faire son travail, ça va continuer à envahir, ça va toujours prendre plus que ça promet, ça va détruire, ça va tuer. Et Dieu haït ça. Et Dieu, c'est avec passion qu'il veut prendre soin du problème. Savez-vous, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Et c'est avec toute la passion qu'il a pour le bien et la haine du mal, avec toute sa passion qu'il a brisé le Fils. C'est pour ça que dans Ésaïe 53, c'est dit, il a plu à l'Éternel. Et c'est pour ça que Dieu est un Dieu de toute passion. Quand il nous aime fort. Quand il a eu le mal, il l'a eu plus au point. Quand il a mis son Fils sur la croix par amour pour nous, et aussi par amour pour son Fils, lui donnant l'opportunité de faire le travail le plus grand au monde, de devenir la lumière du monde entier en donnant le sacrifice, celui qui va donner sa propre vie, par amour pour nous. Il a donné l'occasion donc à son Fils d'avoir le plus grand travail qui soit. Mais on voit sa grande passion. Et c'est avec passion qu'il s'est déchaîné dans sa colère contre le Fils qui portait, donc qui était devenu péché pour nous. Ah. Et c'est pour ça que Dieu, quand il nous commande de aimer, c'est parce que c'est un Dieu qui est passionné pour le bien. Il haït le mal au plus haut point, avec passion qu'il haït le mal. Et il ne veut pas qu'on l'aime avec tiédeur. Il ne veut pas qu'on soit tiède, qu'on soit sans intérêt ou qu'on soit désintéressé Pas dans le sens français, au sens propre, désintéressé, c'est une bonne chose, au sens de ne pas être centré sur soi, mais au sens que d'être insensible. Il ne veut pas qu'on fasse simplement croire des choses de la tête, dire des choses de la vérité, mais sans amour. Non, il veut qu'on aime. La chose qu'il avait contre l'église d'Éphèse, c'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Commencé à faire les choses par routine. Et donc, on comprend que Paul, ici, quand il prie, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, un Dieu d'autant de passion qu'il s'est déchaîné contre le Fils, le moment que son Fils est devenu péché, par amour pour nous, qu'il est devenu le sacrifice, l'agneau de Dieu, qui va subir la colère de Dieu contre le mal, parce que Dieu haït le mal sous toutes ses formes. Et Dieu ne l'a pas laissé mort, bien sûr, il l'a ressuscité, il l'a élevé, il l'a exalté pour le fait qu'il a été tellement altruiste, et pour le fait qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Il l'a élevé en gloire. Et il l'a élevé avec autant de passion qu'il s'est déchiré aussi sur lui dans sa colère contre lui en tant que celui qui était le victime expiatoire. Mais voyez-vous que Dieu, quand il fait quelque chose, c'est pas à demi, c'est pas à moitié, c'est pas avec un cœur insensible, c'est pas avec un cœur froid, c'est pas avec un cœur tiède. Et donc Dieu, il veut qu'on apprenne aussi à aimer comme lui, il est amour. Et c'est pour ça que l'importance, on le voit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Et gloire à Dieu, parce que je sais que dans ma vie, l'amour n'a pas toujours été ce qu'elle devait être. Mais il prie qu'elle augmente. Pas qu'il y a espoir. Qu'on ne reste pas avec un petit amour ou avec un manque d'amour. Et donc, Paul prie pour que leur amour augmente. Et là, on va maintenant voir, donc, il va dire que votre amour augmente et il mentionne deux choses. Augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Et donc, on va s'imaginer ce matin une construction. Dieu nous a créés à son image. Dieu est créatif. Et Dieu aussi, il aime ça quand nous sommes créatifs, qu'on fasse des choses. Hier, les adolescents ont pu faire des kiosques, ils ont démontré leur créativité en inventant une activité. On avait de la fausse monnaie là, pour le jeu. Ils devaient gérer ça, combien ça coûterait pour jouer, combien sur les récompenses, tout ça. Eh bien, Dieu est un Dieu aussi qui est constructeur, qui est créatif. Et on va s'imaginer ce matin une maison. Maintenant, dites-moi les parties principaux de la maison, d'une construction. Les portes, pour rentrer dans la maison, c'est important. Les murs, ok, et les portes font partie des murs. C'est une manière de pouvoir passer à travers les murs. C'est bien. Donc, les portes et murs, on va mettre ça ensemble. Quelle autre... Les fenêtres, on va faire ça partie avec les murs, parce que c'est la partie du mur qu'on peut voir à travers. Donc, on va garder ça ensemble. Et quelle autre partie? Il y a deux autres parties principaux. Voilà, le sol, la fondation. Tout ça ne bouge pas.
Et
la couverture, le toit. Hein? Parce que si on avait le fondement et les murs, c'est bon, mais on aurait chaud. Où on serait mouillé. Voilà. Donc, ça nous prend une couverture. Mais une couverture avec des murs, puis la boîte de fondation, ça fait peut-être un peu un temps, mais à un moment donné, ça bouge, puis ça, là, il ne reste plus rien, parce que pas de fondation. Une fondation avec un toit sans mur, ben, ça ne marche pas, parce que sur quoi est-ce que repose le mur, le toit? Oui, ça prend les trois. Et donc, nous voyons ici la fondation. La fondation. Et on peut se l'imaginer, donc, c'est l'amour. L'amour. Dieu veut qu'on fonde nos vies sur l'amour, l'amour de Jésus-Christ pour nous. Et quand on l'accepte, on commence à apprendre à l'aimer. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Mais donc, sur cette fondation de l'amour, Dieu veut qu'on commence à construire des murs. Maintenant, pour le graphique, on en a deux murs. Un graphique en deux dimensions, on a deux murs. Okay? J'espère que ça ne vous tracasse pas trop, vous arriverez à dormir quand même ce matin, ce soir, parce que peut-être qu'il y en a qui vont rester réveillés toute la nuit à penser, mais Pasteur Raymond, il y a 4 murs au moins dans une maison. Ben, peut-être qu'il peut avoir une maison triangulaire, mais on ne l'en voit pas trop souvent. Mais enfin, d'habitude, il y en a 4, pas 2. Bon, ça en prend au moins 2, parce qu'il peut avoir un côté ouvert et un autre côté ouvert. Mais pour la cause de ce qu'on fait ce matin, et l'illustration du texte qu'on a, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alors, les murs, le premier, la connaissance. La connaissance. Et ça, c'est la connaissance des choses morales, c'est vraiment de savoir quelle serait la théorie, qu'est-ce qui devrait être, comment est-ce que devraient être les choses, comment est-ce qu'on sait comment devraient être les choses avec la Bible. Donc, que notre amour grandisse avec ce qu'on va connaître de la Bible pour savoir comment devraient être les choses. Mais est-ce que c'est suffisant de simplement comment devraient être les choses? Non. Il faut savoir comment les appliquer à ce qui est existant. Savoir là où il y a les besoins. Donc l'intelligence, ça réfère plus au côté pratique. C'est comment sont les choses en ce moment. Et là, ça inclut donc les cinq sens, etc. Et ça, on a besoin de savoir non seulement comment devraient être les choses, mais ensuite, on devrait aussi être voir dans nos propres vies avec le miroir devant nous, comment sont les choses, pour pouvoir les changer. Si on fait juste connaître la théorie, mais sans réfléchir à comment sont les choses, et on ne sait pas comment l'appliquer. Donc, les deux murs, la connaissance et l'intelligence. Sur le fondement de l'amour, que votre amour grandisse en connaissance et en intelligence. Sans cette fondation de l'amour, on peut grandir et devinez quoi? La tête grandit de plus en plus, puis on reste petit de corps, mais là, à un moment donné, notre tête grandit, et pouf! Et Dieu ne veut pas que notre tête grandisse, devienne tout... Non, il veut que ce soit l'amour, pas notre orgueil. On ne s'enfle pas de la tête avec la connaissance et peut-être avec l'intelligence de voir ce qui se passe, parce que qu'est-ce qui se passe? Là, on va devenir un peu comme les pharisiens. Et c'est pas l'amour qui va motiver rien du tout là-dedans. Mais ouais, est-ce qu'on veut juste faire des murs et être au... exposé à la pluie ou au soleil? Non, on a besoin d'un toit. Dans quel but donc? Et là, qu'est-ce qui réunit les deux ensemble? Qu'est-ce qui va réunir les deux ensemble pour le discernement des choses les meilleures? Pour l'excellence, pour viser vraiment l'excellence.
La prière.
Donc, pour discerner, pour pouvoir vraiment voir correctement à travers, non seulement donc comment les choses devraient être, comment les choses sont, et maintenant quelle solution apporter. Et pour pouvoir tendre à l'irréprochabilité, donc de pouvoir vraiment les choses excellentes, les choses les meilleures, la différence entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est meilleur, pas se satisfaire de qu'est-ce qui est acceptable, mais viser l'excellence pour Dieu. Mais encore là, sur la fondation de l'amour, que notre motivation, c'est vraiment pour Dieu, et ensuite pour les autres créatures qu'il a créées. Ça, c'est notre motivation pour savoir vraiment comment sont les choses, comment devraient être les choses, savoir comment sont les choses, incluant nous devant le miroir. Pourquoi? Juste pour savoir, non, faire quelque chose. Pour pouvoir le discerner maintenant et de faire la différence entre qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est encore mieux. Pour pouvoir être irréprochable pour le jour de Jésus-Christ. Donc Dieu veut qu'on grandisse, qu'on bâtisse avec, avec des marteaux, qu'on se mette à l'œuvre sur le fondement de l'amour. Regardons dans Luc 7. Luc 7. 40 à 47. Luc 7, 40 à 47. Là, il donne l'histoire ici de la femme. La femme qui était venue pour pleurer sur les pieds de Jésus et loindre de parfum, une femme de mauvaise vie, mais qui était repentante. Et Jésus qui voyait la pensée de Simon. Simon qui doutait de qui Jésus était parce qu'il pensait que Jésus devrait savoir quel genre de femme c'était, mais Jésus savait plus que quelle sorte de femme c'était. Il connaissait aussi ses pensées à lui, qui doutait de qui il était. Et Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comment il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel aimera le plus ? Simon répondit, « Celui que je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit, « Ah Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ok ? On écoute bien ? On écoute bien ? Ok ? Jésus-Christ donc parle de... Il peut avoir un petit amour, ok, et un grand amour. Dieu veut que notre amour ne reste pas petit s'il est petit. Qu'on puisse réaliser à quel point quand Dieu sauve, il nous a sauvés de tellement de choses, que depuis notre salut, combien de péchés qu'on a fait, que Dieu nous... pardonne à cause de Jésus-Christ, puis il veut qu'on réalise et qu'on puisse être motivé de l'aimer de plus en plus. Quand on regarde dans la Bible, il y en a qui ont ils ont commencé avec un petit amour. On pense à l'amour de David le roi, avant la mort d'Uza. Avant qu'ils ont bougé l'arche de l'Alliance. David était plein de zèle, mais il a fait bouger l'arche de l'Alliance la manière qu'il avait entendu parler. Les Philistins l'avaient bougé sur un chariot tiré par des bœufs. David a eu fait cela. Uza a mis sa main pour le retenir parce qu'il penchait dans le chariot. Dieu l'a frappé de mort. David, ouh, qu'est-ce qui se passe? 3 mois plus tard, David avait fait ses devoirs. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Dieu avait été clair dans la loi que c'est les sacrificateurs qui doivent porter l'arche. Moi, j'ai utilisé le moyen des Philistins. Il commençait avec un petit amour, mais là, il a rajouté la connaissance. Ah, c'est comme ça que ça devrait être. Oh, c'est pas comme ça qu'on a fait. On va le changer pour tendre aux choses les meilleures. Un beau zèle, quand c'est pas ce que Dieu a demandé, c'est pas fait avec l'amour. Ça marche pas. David a grandi dans son amour. Pensons à passer de l'amour de Marie à l'amour de Marthe dans Luc 10, 38, 42. Ils ont reçu Jésus chez eux. Marthe était occupée aux divers soins domestiques. Parce qu'elle voulait bien recevoir Jésus. C'est une très bonne motivation. Et Jésus enseignait. Et Marie était à ses pieds pour écouter. Et Marthe, pendant ce temps-là, elle s'occupait à toutes sortes de soins domestiques. Et elle était dérangée que Marie ne l'aide pas. Et elle a dit au Seigneur, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et au verset 41, Jésus lui répond, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Pendant que Christ enseigne, c'est pas le temps de faire la vaisselle, pas le temps de cuire un gâteau. On peut faire cela avant et après. Pendant qu'il enseigne, c'est le temps de s'asseoir et lui donner toute notre attention. L'amour de Marie. Non, je vais inverser les deux. Passer de l'amour de Marthe à l'amour de Marie. J'ai dit passer de l'amour de Marie à l'amour de Marthe. Non, c'est passer de niveau de l'amour de Marthe. Oui, Marthe faisait tout ça par amour pour Jésus, mais ce n'était pas les choses les meilleures. Elle avait besoin de la connaissance, et Jésus lui a donné. Regarde, pendant que j'enseigne, c'est pas le moment de faire les gâteaux, de faire la vaisselle. C'est quand s'asseoir et de m'écouter. Après ça, tu ne pourras pas faire ces choses-là. Elle avait besoin que son amour grandisse en connaissance et en intelligence pour pouvoir discerner les choses les meilleures. C'est passé donc de l'amour de Marie à l'amour de Marthe à l'amour de Marie, pour ainsi dire. Pensons à Pierre. Pierre dans Jean 20 et 21. Pierre qui avait renié Christ, mais Pierre qui continue dans sa foi, mais sa foi est distraite, sa foi est découragée. Dans Jean 21, il s'en va faire de la pêche, il en amène d'autres avec lui. Pendant la pêche, dans Jean 21, Jésus se montre à eux, et il restaure Pierre. Et comme il avait renié trois fois, il lui répète trois fois, « Pierre, m'aimes-tu ?» Et Pierre est un petit peu embarrassé de répondre, « Oui, tu connais toujours. » Jésus qui demande au début, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Il avait dit, « Pendant que si tout le monde te quitte et t'abandonne, moi, je vais rester fidèle jusqu'à la mort. » Vous vous rappelez ? Jésus demande, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre, il ne peut pas répondre, « Oui, je t'aime plus que ceci. » Mais il dit, « Écoute, tu sais que je t'aime. » Trois fois, Jésus lui demande. Et dans le petit chapitre plus loin, on tombe dans, tout de suite après, on tombe dans Actes. Dans Actes 2, là, on a un Pierre différent. C'est pas à la pêche qu'il veut aller. Oh là, son amour, il brille. Son amour pointe à Jésus avec ferveur, avec simplicité, avec puissance. Et il dit aux gens, vous devez vous repentir et croire. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Ah, passer de l'amour de Pierre dans Jean 21 à l'amour de Pierre dans Jean 2. Il avait la connaissance, Dieu lui le restaure. Il l'applique à ce que la situation était pour pouvoir discerner les choses meilleures sur le fondement de l'amour. Pierre, avec amour, rempli du Saint-Esprit, et pas le même homme. Passer de l'amour des Corinthiens à l'amour des Macédoniens. Oui, les Corinthiens aimaient Jésus-Christ, mais ils étaient très charnels. Il y avait des disputes, il y avait des querelles. Chacun pensait à leurs propres intérêts. L'amour des Macédoniens, même si on est pauvre, on peut toujours donner, parce qu'il y a un besoin, eux autres, ils vivent la famine. L'amour des Macédoniens, dans 2 Corinthiens 8, Dieu va faire grâce. On a quand même de quoi partager.
Même si on est pauvre, on n'est pas dans la famine.
Alors on peut partager à nos frères et sœurs, ces églises dans la Judée qui sont dans la famine. Et les Corinthiens, eux autres, « Ah oh, oui, oui, on va envoyer !» Un an plus tard, il n'y avait rien encore de collecté.
Pour leur dire, mais démontrer donc la preuve de votre amour.
Et Paul les encourage de passer à un petit amour, puis de l'augmenter en connaissance. En connaissance parce qu'il a dit, regardez, c'est ce que Christ a fait pour nous. Christ qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous. Pourquoi? Pour nous enrichir. Mais dans le contexte, c'est pas juste pour qu'on puisse être enrichi, c'est pour qu'on puisse vouloir aussi avoir un cœur qui sacrifie pour pouvoir en bénéficier d'autres. Et donc il le remplit. Paul les remplit, les Corinthiens, de connaissances pour qu'ils puissent réaliser « Ah tiens, vous n'êtes pas comme ça en ce moment, mais vous pouvez grandir dans votre amour. » Et faire comme les Macédoniens.
Démontrer la preuve de leur amour.
L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 8, ils encouragent les Corinthiens de passer au niveau d'amour qu'ils ont en ce moment à un niveau d'amour comme les Macédoniens. Qui se sont d'abord donnés à Dieu. Et en se donnant à Dieu, bah, leur portefeuille passait par là aussi. Hein. Parce qu'on aime Dieu de tout notre cœur, ça ne dérange pas de dépenser pour les besoins que Dieu a. Pas que Dieu a des besoins lui-même, mais ce qu'il veut dire, c'est que les besoins pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et autant de payer pour que l'Évangile aille au loin, aussi aider les frères et sœurs qui sont dans un énorme besoin, que ce soit la famine, que ce soit des déluges, comme il s'est passé l'été dernier au Brésil, on avait entendu parler d'inondations terribles. Et il y avait des chrétiens et des églises qui ont été détruites complètement. J'en ai entendu parler à travers ma mission. Et donc on a pu envoyer quelque chose pour démontrer la preuve de notre amour. Passer de l'amour du niveau des Corinthiens, au moment où Paul leur parle, pour qu'ils grandissent, qu'ils augmentent, que leur amour augmente, en connaissance et en intelligence pour le discernement des choses de meilleures. Et voilà, d'arriver à un amour digne, par exemple, des Macédoniens. Jésus-Christ, dans son parabole de les quatre terres, il dit, et un grain en donne 30, et un autre 60, et un autre 100. Donc, pour passer d'être un chrétien de 30 grains à 60. Et on peut passer d'être un chrétien à 60 grains à 100 grains. Et Dieu veut que notre amour augmente en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses, que d'ailleurs, qu'on puisse être irréprochable au jour de Jésus-Christ. Qu'en est-il de vous? Premièrement, est-ce que vous avez cette fondation de l'amour fondamentalement établie en Jésus-Christ, d'avoir accepté Jésus comme votre sauveur personnel, de l'aimer, lui qui vous a aimé en premier, de reconnaître que nous, on ne peut pas venir à Dieu avec quoi que ce soit comme amour. Nous, on vient à Dieu avec un cœur haïssable et digne d'être haï, parce que nous aussi, nous haïssons les uns les autres. Et c'est Dieu qui nous apprend c'est quoi l'amour, parce que c'est Dieu qui nous a aimés en premier, c'est Dieu qui a fait le premier pas, c'est Dieu qui vient nous chercher. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour être notre sauveur. Et une fois qu'on se convertit à lui, donc ensuite, il veut que notre amour grandisse. Reconnaissance, qu'on prenne le temps, qu'on ait une soif, qu'on ait un amour pour la parole de Dieu, pour savoir comment devraient être les choses. Mais il ne veut pas qu'on soit juste le nez dans le livre sans rien. Pour réfléchir à comment sont les choses, pour pouvoir les appliquer. On se regarde dans le miroir, qu'on prenne constat de comment sont les choses en ce moment, pour pouvoir bâtir nos murs et arriver à mettre le toit, discerner, vraiment bien discerner les choses pour approuver les choses de meilleur. Avoir l'excellence d'un amour vibrant. On va prier. Seigneur Dieu, travaille dans chacun de nos cœurs. Tu es un Dieu d'amour et tu ne veux pas qu'on t'aime à moitié. Tu ne veux pas qu'on périsse séparé de toi. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses toucher les cœurs de quiconque ne te connaît pas encore vraiment comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, Seigneur, aussi pour ceux d'entre nous qui professons te connaître, qu'on puisse grandir, que notre amour puisse grandir en connaissance et en intelligence pour le discernement des choses les meilleures, Seigneur Dieu. Qu'on puisse vraiment devenir des personnes qui te sont pleinement agréables, Seigneur Dieu. Seigneur, on te prie donc que tu puisses te servir de ta parole pour travailler dans chacun de nos cœurs. On te supplie en Jésus.